Ceux qui étaient là les dimanches précédents, vous le savez, nous avons fait une série de 5 prédications sur l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, donc, c'est la dernière. Cette série de prédications, nous lui avons donné le titre que vous voyez affiché ici, « Croyant et pratiquant ». Et c'est peut-être un peu un clin d'œil à une expression qu'on entend souvent de personnes qui s'expriment en disant « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Et en s'exprimant de cette manière, ces personnes veulent généralement dire qu'elles croient en l'existence de Dieu, parfois même que cette croyance influence un peu leur vie, mais qu'elles ne consacrent que peu ou pas du tout de temps à une pratique qu'on pourrait qualifier de religieuse. Dans son épître, cette lettre, que nous l'avons vu, Jacques balaye toute idée d'une croyance qui ne se traduirait pas concrètement par une mise en pratique. Et ce principe a été illustré par un verset que nous avons lu dans le chapitre 2. « Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. » Une vérité que Jésus illustre parfaitement dans le sermon sur la montagne avec l'image du sel. Le sel, sans la saveur, n'est plus du sel. Il n'est plus d'aucune utilité. Un sel sans la saveur du sel n'est plus du sel. Il n'est plus d'aucune utilité. Et cette lettre, cette épître de Jacques, se termine par quelques conseils très pratiques. On serait étonné du contraire, hein, venant de sa part. Des conseils très pratiques à l'adresse des croyants. Et donc, je vous invite à prendre le chapitre 5, à partir du verset 7, je vais le lire dans la version du Semeur. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux qui, parmi vous, pardon, je me suis trompé de verset, et je ne suis pas dans Jacques en plus. On recommence. Ça ne correspondait pas à la place que j'avais dans la tête. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard et c'est jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, comme si vous ne vouliez pas si vous ne voulez pas être condamné. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Avant tout, frères, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui, et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Les premiers versets que nous avons lus, les versets 7 à 11, nous parlent de patience, mais sous l'angle de la patience dans l'épreuve. Nous l'avons déjà dit, les mots épreuve et tentation sont souvent interchangeables et ils partent du même mot original dans les manuscrits. Mais la tentation est une épreuve, et toute épreuve fournit une occasion de tentation. Il me semble que la différence provient avant tout du regard qu'on y porte. Et je m'explique. Épreuve ou tentation, l'un comme l'autre, sont une difficulté placée sur notre chemin. Comme on le voit dans le livre de Job, que Jacques prend en exemple, le diable, l'ennemi de Dieu, n'a qu'un objectif, que Job se casse la figure, qu'il trébuche, qu'il s'affale de tout son long, en se répandant en malédiction, en imprécation contre Dieu. L'objectif de Dieu dans cette épreuve est tout autre. Une épreuve qu'il permet, on le sait, le récit le montre, mais son objectif est tout autre. Il désire que Job déjoue cette tentation et surmonte l'obstacle. Et la suite du récit montre combien Job en apprend beaucoup, beaucoup plus sur Dieu, sur lui-même, du fait de cette épreuve, que peut-être il ne l'aurait fait tout au long de sa vie, si sa vie bénie, si elle s'était poursuivie sans la moindre contrariété. On appelle aussi épreuve les examens que passent les écoliers et étudiants. Et ce qui apparaît de prime abord comme une difficulté, un obstacle à surmonter, est aussi un moyen de savoir où on en est dans le long processus d'apprentissage et de se qualifier pour la phase suivante ou la vie professionnelle. Mais l'épreuve ne peut pas non plus être dissociée de la tentation. Et peut-être une des premières tentations est de chercher à se soumettre à l'épreuve, de la contourner, de faire des compromis, de rebrousser chemin, ou peut-être de passer en force. Et Jacques, on le voit ici, il n'a qu'un mot pour faire face. Patience, 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 4 fois. 4 fois, le mot est décliné dans ces lignes, non seulement dans la traduction du Smur que j'ai lu, mais dans le texte en grec lui-même. Et c'est bien l'idée de tenir bon, de persévérer dans l'épreuve, de résister à la tentation, comme nous l'avons vu au chapitre 4. Une tentation qui pourrait prendre, nous est-il dit ici, la forme d'une plainte des uns contre les autres. On le voit ici au verset 9, d'un manque de patience entre les frères et les sœurs. Cette patience dont le modèle concret a été manifesté par les prophètes, on fait souvent référence, et à juste titre, à Jésus, à la patience de Jésus, mais Jacques choisit ici de simples hommes, les prophètes, Job, Élie, en s'en remettant à Dieu comme eux l'ont fait, ce qui signifie que c'est possible. Je remarque que Jacques ne fait aucune promesse de limite de durée ou d'intensité dans l'épreuve tentation, mais il n'en évoque pas moins une fin qu'il attribue à la bonté et à la compassion de Dieu. Et plus tard, Paul dira, l'apôtre Paul, que Dieu ne permettra pas d'épreuve qui aille au-delà de nos forces, et surtout que le moyen d'en sortir est déjà prêt dès l'heure de son arrivée. Si l'épreuve apparaît à nos yeux à durée indéterminée, elle ne l'est pas dans la volonté de Dieu. Je vais juste faire un petit réajustement. J'ai changé de lunettes et ce n'est pas du tout pareil. Ça a l'air d'aller mieux. La deuxième chose nous ramène à la question de la parole, un thème qui a été abondant dans cet épître de Jacques, la parole. Et là, quelques mots, mais pour dire une parole vraie, une parole droite, une parole qui n'a pas besoin d'être attestée par un « je t'assure, je te promets, je te jure ». Alors, non pas que ce soit des expressions mauvaises en soi, il y a même des circonstances où elles sont incontournables, là où elles s'imposent dans la justice, il faut prêter serment. Mais nos paroles, en règle générale, devraient être d'une fiabilité telle que toute forme de serment, d'attestation est superflue. Si nous éprouvons le besoin de certifier une parole, de quelque manière que ce soit, interrogeons-nous peut-être sur la fiabilité de nos paroles le reste du temps. La condamnation dont Jacques fait mention ici fait peut-être référence au fait d'être pris au jeu de ses propres paroles. Bien évidemment, Jacques cite le oui et le non à titre d'exemple. Loin de là l'idée que ce ne seraient que les seuls deux mots, les deux seuls mots que, valables dans la bouche des chrétiens. Alors certainement, il y a quand même l'idée de veiller à ne pas se perdre en parole, mais l'appel de Jacques va plutôt dans le sens d'une parole claire, univoque, qui est le contraire d'équivoque, qui ne joue pas sur l'ambiguïté. Et vous l'aurez remarqué en parcourant cette épître, par son style direct, Jacques excelle dans ce domaine. Oui et non ne sont pas forcément les mots les plus faciles à prononcer. Dans bien des circonstances, un simple oui engage. Et c'est ce qu'ont fait, dans quelque sorte, ce matin, ceux qui se sont engagés par le baptême. Ils ont dit oui à Jésus. Et mérite une longue réflexion. Un non qui sait poser des limites claires, calmement et sans brutalité, demande également un gros effort. Et puis nous en arrivons à la troisième partie. Une partie qui est consacrée à la prière, et alors je trouve assez significatif qu'une épître entièrement tournée vers la mise en œuvre pratique, concrète de la foi en Jésus-Christ se termine par cette exhortation appuyée et circonstanciée à la prière. L'idée que nous nous faisons bien souvent de la prière, c'est qu'elle n'est pas à proprement parler d'une action. Ainsi, prier ne serait pas agir. Prier véhicule aujourd'hui l'image d'un passé révolu tourné vers le contemplatif. On a l'image des moines, des ermites. Mais c'est sans compter sur Jacques, qui nous dit que la prière, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. L'efficacité, nous y voilà. Alors, un mot qui est très séduisant à notre époque, hein, qui est vraiment propre à séduire nos contemporains, je vous l'accorde, la traduction a un peu modernisé le texte original, mais le texte original parle de force abondante, hein, l'idée est là. La prière est un mode d'action concret dans un grand nombre de situations. Situations dont Jacques nous donne ici un petit florilège à considérer, la souffrance, la joie, la maladie. Et s'agissant de la souffrance, on peut supposer qu'il évoque toutes les formes de souffrance par lesquelles nous pouvons passer, que nous connaissons dans notre humanité, physique, morale, psychologique, relationnelle, émotionnelle, affective, matérielle. Et une souffrance qui n'est évidemment pas équitablement partagée entre tous les hommes, mais qui est quand même le lot de toute l'humanité. Jacques a cité Job, et Job disait que l'homme naît pour souffrir, naît pour la souffrance, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Une étincelle, c'est une petite particule de matière en combustion, projetée dans l'air, et tout au long de son vol, elle est nourrie, la combustion est nourrie par l'air qu'elle rencontre durant son vol. Mais sitôt arrivée au sol, elle ne reçoit plus cet apport volumineux, enfin important d'oxygène, et son rejoignement s'éteint rapidement. Elle perd toute manifestation, même visible, de son existence. De même, l'homme qui ne souffre plus est un homme mort. La souffrance fait partie de notre condition, de la condition humaine, en tout cas depuis sa rébellion avec son Créateur. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle Jacques ne s'étend pas sur la question de la souffrance. C'est notre lot à tous, mais le conseil n'en demeure pas moins pratique et concret. Jacques dit simplement « Priez, qu'il prie, hein, que celui qui traverse la souffrance, qu'il prie ». C'est simple, c'est clair, une parole vraie, digne de Jacques. Pour ce qui est des moments de joie, il ne fait pas mention explicite de la prière, mais Jacques parle de chanter des cantiques. Bien évidemment, il ne s'agit pas forcément du dernier tube de Taylor Swift, même si je vous l'avoue que de pareils moments, il m'arrive de m'adonner à cet exercice, pas Taylor Swift, plutôt les variétés des années 80, l'opéra des fois. Plus sérieusement, Jacques parle de chant, de reconnaissance à Dieu, une forme de prière que nous avons connue à la louange et que nous avons pratiquée ce matin. Il est probable que ce moment que nous avons vécu ensemble, ce moment de louange que nous avons partagé, nous réjouissant autour de nos baptisés, nous n'avons pas vécu forcément tous de la même manière. Et j'imagine que nous ne sommes pas tous joyeux ou affligés en même temps, ni au même degré. Mais ce matin, nous nous sommes quand même réjouis autour de nos sœurs et de notre frère, avec tous les anges dans le ciel, j'en suis convaincu. Encore une parole simple, claire et vraie, que celui qui a de la joie chante des cantiques, qu'il exprime sa joie, qu'il exprime sa reconnaissance de Dieu, sa reconnaissance à Dieu, qu'il ne se comporte pas en enfant gâté, ce serait un dû, mais c'est une grâce, un cadeau de Dieu. Et puis, ensuite, Jacques aborde un petit peu plus longuement et spécifiquement une forme de souffrance physique particulière qu'est la maladie. J'imagine donc la maladie grave, tenace, handicapante, ou les trois à la fois. Pas évidemment, je pense, le simple rhume ou le torticolis. Ces consignes sont claires. Que le malade fasse appel lui-même à la prière des responsables de l'Église, une prière précédée d'une onction d'huile au nom du Seigneur. Les consignes sont précises. Alors, bien que très concret, le geste de l'onction d'huile est strictement symbolique. Ce n'est évidemment pas l'huile qui aura le pouvoir de guérir le malade. Mais Jacques est bien clair, la prière faite avec foi, la fameuse prière du juste qui a une force abondante, relèvera le malade. Il s'agit donc bien d'une prière pour la guérison qui ne se substitue en rien au traitement médical, un traitement médical qui, s'il faut le rappeler, existait déjà du temps de Jacques, moins sophistiqué qu'aujourd'hui, évidemment. On a vu certains croyants refuser des traitements médicaux au nom de leur foi en Dieu, et je ne crois pas qu'il soit question de ça ici. Jacques n'a pas de parole en ce sens, et on voit même Luc, l'auteur de l'évangile du même nom, qui était un médecin reconnu comme tel de son temps par les disciples, et par Paul lui-même dans sa lettre aux Colossiens. Un deuxième écueil serait de jouer sur les deux tableaux, le traitement médical et l'onction d'huile pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, je ne m'attarderai pas tellement sur ce modèle, tellement il me semble éloigné de la foi simple, authentique et sans calcul, censée animer les disciples de Jésus. Je note quand même qu'il n'est pas rare, et en particulier dans une société post-chrétienne comme la nôtre, de rencontrer un mélange de ce genre entre science et non pas la foi, mais la superstition. Mais il n'y a rien de très attirant là-dedans pour le chrétien authentique. Par contre, un disciple, peut-être, renoncera-t-il à cet acte de prière et de foi en considérant que, précisément, il serait hypocrite et calculateur d'y recourir tout en recevant des soins médicaux. Eh bien, je trouve que c'est dommage. Ce que Jacques expose ici est beaucoup plus simple que cela, et je n'ai pas connaissance d'un seul texte biblique qui incite les croyants à choisir entre la médecine et la prière. Je le répète, les médecins existaient du temps de Jacques et de Jésus. Alors certes, on les voit impuissants à guérir certaines affections, tout comme aujourd'hui. De bon nombre de maladies n'ont pas de remède de nos jours, et d'autant qu'il émerge régulièrement de nouvelles maladies. L'appel des malades aux responsables d'église pour cette prière spécifique incluant ce geste d'onction d'huile devrait peut-être être plus souvent lancé qu'on ne le pratique aujourd'hui dans les églises, et pas seulement dans les cas où la médecine est impuissante. En disant d'anciennes parmi vous, Je n'ai vu les anciens sollicités pour une telle prière qu'une seule fois. Je trouve dommage. Nous avons là une forme d'expression de la prière en action, en onction, qui est à toute sa place aujourd'hui dans la communauté des disciples du Christ. Mais dans sa grâce, le Seigneur ne se limite pas à la guérison des corps. Il veut aussi guérir nos âmes du mal causé par le péché. Comme toute action médicale nécessite un diagnostic, la guérison de l'âme nécessite la confession des péchés. Jacques inclut donc cette dimension que l'action médicale ne prend pas en charge et la prolonge au-delà de ce contexte par un encouragement à la confession des péchés et à la prière. Une confession et une prière réciproques les uns les autres, les uns aux autres. Dans une confiance éprouvée, une confiance que le temps qui ont été éprouvés par le temps, entre frères et sœurs, nous pouvons nous avouer nos fautes les uns aux autres, porter ensemble une prière de repentance, nous pardonner réciproquement et recevoir ensemble le pardon du Seigneur. Pour terminer, Jacques cite l'exemple d'Élie, en renforçant cet exemple par le fait qu'Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Histoire de ne pas nous cacher derrière le fait qu'il aurait été un homme extraordinaire. Pas parfait, pas divin comme l'était Jésus, pas plus juste que nous sur le plan de sa nature humaine, pécheresse comme la nôtre, mais droit et juste dans le sens que les psaumes et les proverbes donnent à ces mots, s'appliquant à suivre une voie droite, s'efforçant de marcher dans ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et dans ces conditions, prier, c'est déjà agir. On peut s'attendre, nous dit Jacques, à ce qu'une prière adressée à Dieu dans ce contexte soit exaucée. L'évocation de la prière, qui peut sembler contre-intuitive en conclusion d'une épître entièrement tournée vers une foi mise en action, cette évocation est hautement significative. La prière que d'aucuns associent à une forme d'inaction, d'indolence, voire de mollesse, est la plus représentative du passage à l'action pour ceux qui veulent vraiment être disciples du Christ. Elle n'est pas forcément, d'ailleurs, la plus évidente ni la plus facile. Et il est plus facile souvent d'agiter nos bras et nos jambes que d'incliner nos têtes. On le voit ici tout au long de cette lettre, Jacques s'efforce d'effacer la ligne de démarcation que nous sommes tentés de tracer entre la foi et les actes. Il renvoie dos à dos, d'un côté les tenants d'une foi qui ne se traduirait pas en actes, stérile par nature, morte en elle-même, et d'un autre côté les partisans d'une forme d'activisme sans inspiration spirituelle et pour laquelle compte le seul résultat concret. L'une ne produit rien, l'autre n'émane de rien. La foi morte se contente bien souvent de ne pas faire le mal. Dans une forme de légalisme exacerbé, elle peut même se montrer très virulente. Or, nous l'avons lu dans cette même épître la semaine dernière, au chapitre 4, « Qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché ». Pour nous, disciples que Dieu a créés, pour accomplir des actes qu'il a préparés d'avance, accomplir ce pour quoi il nous a créés est aussi incontournable que s'abstenir du mal. Je terminerai par juste une parole selon l'image empruntée par Jacques au chapitre 3. Le figuier produit des figues, la vigne produit du raisin et la foi produit des actes de foi. Amen.